tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons notre économie en folie pour ce mois d'octobre avec Bernard Ferrand. Bonjour.
Bonjour à tous.
L'automne est là et l'automne, on sait que les feuilles s'envolent. Et aujourd'hui, on va parler de feuilles qui s'envolent justement, puisqu'on va parler du projet de budget 2020 avec beaucoup de données qui peut-être s'envoleront aussi avec les feuilles. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, Gérard Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, ont présenté en Conseil des ministres ce 27 septembre, c'est-à-dire c'est tout frais, le projet de loi des finances 2020. Quelle croissance robuste pour 2019-2020 sera-t-elle robuste?
Non, elle n'est pas très robuste, mais elle n'est pas trop mauvaise. Le projet de loi de finances, c'est dans notre fonctionnement républicain, se présente en fait fin septembre, début octobre, pour passer ensuite dans les chambres des députés, puis au Sénat, etc., de faire les allers-retours tout à fait normaux. Mais à partir de là, on a les données essentielles. Il repose sur une donnée que certains qualifient de robuste et d'autres de très moyenne. On parle d'un taux de croissance du PIB de 2,2-2,3, ce qui n'est pas sensationnel, mais toute l'économie européenne est molle. Voilà le mot qu'il faudrait employer. Mais certains pays sont plus gravement touchés que nous, à savoir l'Allemagne. L'Allemagne est passée en dessous de 2 de croissance de l'économie et ça ne va pas s'arranger tout de suite. C'est d'ailleurs un des résultats de la crise mondiale qui se profile avec les échanges entre les États-Unis et la Chine. Et ensuite, un deuxième pays très important en Europe. Ce fut un temps la troisième économie européenne, l'Italie. L'Italie de M. Salvini, il n'est plus au pouvoir, mais il a ruiné ce pays. Le taux de croissance est pratiquement de zéro. La majorité des jeunes Italiens qui ont fait quelques études, qui ont quelques compétences, sont partis. Rendez-vous compte d'un pays comme ça, ce qui peut se passer. C'est un client pour la France. C'est un client qui n'a plus de pouvoir d'achat. Voilà un petit peu le drame. Mm-hmm. Donc la croissance n'est pas sensationnelle, certes, mais elle est plus importante que la majorité de nos partenaires. On est battu, par exemple, par l'Espagne. L'économie espagnole se porte mieux que nous. Et ensuite, derrière, il y a le total du déficit public. Vous le savez, c'est des règles de Schengen, c'est des règles normales, approuvées par tout le monde. Le déficit ne doit pas dépasser 3% du PIB. Bon, ce n'est pas une mesure aussi idiote que ça. Hein. Il faut bien s'en rendre compte quand même. Pensons aux familles, pensons aux entreprises. Si on creuse le déficit, eh bien, il y a un moment où on sera très mal. Il y a cette règle-là. Et pour la France, on est dans les clous. Mmh. Un peu juste. Mais ouais. On sera à peu près dans les clous, malgré tout le gouvernement et le président de sa République s'étaient basés sur une diminution de ce pourcentage, c'est-à-dire qu'on serait loin de 3%, on serait peut-être 1,5. On n'y sera pas et on sera proche, et peut-être même au-dessus de 3%. Mmh. Ce n'est pas dramatique, mais il faut le noter.
Est-ce qu'il y aura une évolution de la dépense, mais est-ce qu'elle sera surtout maîtrisée ? C'est l'important, ben, ça.
L'important de la dépense, c'est effectivement de la maîtriser pour ne pas dépasser 3% du PIB, entre autres. Je pense que le gouvernement veillera à ce que ça soit maîtrisé, effectivement. Mais les dépenses, c'est aussi fonction et vraiment des recettes. Que va-t-il se passer dans les recettes annoncées ? En ce qui concerne les recettes annoncées, c'est là où il y a d'abord beaucoup de communication des deux ministres. On les a entendus tout le week-end. Presque, on se demandait s'il y avait encore un championnat mondial de rugby, tellement on les entendait partout. Et ils ont annoncé un certain nombre de choses qu'il faut peut-être reprendre. Par exemple, ils ont annoncé que la poursuite de la disparition de la taxe d'habitation perdure. C'est-à-dire que de plus en plus de ménages, on peut parler de maintenant de 80% des ménages verront leur taxe d'habitation se réduire à zéro. C'est une annonce qu'on appelle positive, peut-être un peu démagogique.
Oui, mais
parce que c'est le financement, c'est les collectivités locales qui vont souffrir. C'est
voilà,
une ressource.
C'est ce que je veux dire. Si les ménages, justement, ne participent pas un petit peu à l'essor du pays, les collectivités locales vont devoir, elles, y participer. Donc, ça va diminuer les subventions aux associations locales. Et donc, c'est la roue qui tourne à l'envers, quelque part.
Ah, mais toujours, toujours. Quand on prend une mesure, il y a des effets positifs, des effets éventuellement négatifs. Hein. Là, pour la taxe habitation, c'est vrai que c'est positif, il faut être honnête, pour des gens de revenus modestes. C'est très, très positif, ça fait du pouvoir d'achat supplémentaire, c'est sûr. Mais après, pour les collectivités locales, ça fait une recette en moins qui n'est pas nécessairement compensée par les ménages.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas indexé justement la taxe d'habitation avec les revenus?
Pourquoi, je ne sais pas. C'est historique, c'est très ancien. Donc ça n'a pas été fait.
Logique.
Parce que théoriquement, c'est indexé en fonction de la valeur des loyers. Bien entendu, de la valeur de la maison ou de l'appartement que l'on loue, par exemple. Il y a le lien avec la valeur estimée ou réelle lorsqu'on paye un loyer. Deuxième type de mesure aussi qui peut soulever des... qui est vraiment annoncé, les deux ministres en ont parlé aussi très fortement, c'est la baisse de 3 points de l'imposition sur la première tranche. Tous ceux qui payent des revenus dans la première tranche, c'est-à-dire en dessous de 2000 et quelques euros, ces personnes-là verront une baisse de leur coefficient d'imposition, qui sera vraiment une baisse très importante. Ceci va toucher, entendez bien, plus de 12 millions de ménages qui sont imposables sur les 17 millions imposables. Donc, moi je dis, on voit là un effet gilet jaune en quelque sorte. On redonne du pouvoir d'achat aux personnes qui ont des revenus les plus faibles.
Oui.
Très clairement. Ça, c'est comme la taxe habitation. Et il y a d'autres mesures d'ailleurs qui vont un petit peu dans le même sens. On réduit ce qu'on demandait autrefois aux petits revenus, aux revenus moyens. On l'a vu dans les mesures de début d'année qui ont été prises, et bien sûr, il a fallu les financer quelque part, et on le voit aujourd'hui dans le PLF 2020. La question qui se pose derrière, c'est, mais qui va payer tout ça?
Justement, ça va peut-être créer un déficit, peut-être, non?
Eh bien, l'idée par rapport au déficit, c'est de dire non, ça va le creuser un peu, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est loin. On parlait tout à l'heure qu'on sera peut-être presque au-dessus des 3% du déficit public. Et l'objectif qui était de le ramener à moins de 2 est totalement abandonné par le gouvernement. Bien entendu, cet effet aura d'autres conséquences. Je le dirai avec un peu d'humour, on va trouver de l'argent, c'est déjà annoncé. Par exemple, les taxes sur le tabac va augmenter.
L'essence va augmenter, enfin en tout cas les carburants.
Les carburants, justement pas. Ça ne va pas particulièrement augmenter.
Ah, pourtant,
très peu.
Ils l'ont bien... Oui, très peu,
très
mais
peu,
ça va augmenter.
Mais pas beaucoup. Parce que la mesure sur le carburant, on y reviendra plus tard. Et ensuite, il y a une diminution de l'APL. Alors là, ça soucie de l'aide au logement.
Oui.
Eh bien là-dessus, on n'en a pas beaucoup parlé. Il faut lire dans l'intérieur de la loi des finances cette petite mesure, mais qui là va toucher, pas d'une manière énorme, mais plusieurs centaines d'euros dans l'année, vont toucher essentiellement les ménages modestes. Par contre, on n'augmente pas l'impôt sur les sociétés, même on va le diminuer.
Est-ce que c'est normal ça?
C'est normal. Chacun va prendre sa position. En ce qui me concerne, pour moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ce que dit le gouvernement, et il n'a pas toujours tort, ne pas l'oublier, c'est qu'elle dit, si vous imposez trop les entreprises, les produits ne sont plus compétitifs dans la compétition européenne ou mondiale. Et ça, ce n'est pas faux non plus.
Oui.
On est bien entendu. Mais on n'est plus dans une imposition des revenus. On impose moins les entreprises. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de le remplacer tout simplement par une imposition sur les actionnaires directement?
Tout à fait.
Voilà. Et ça serait peut-être plus logique. Mais nous avons affaire à un gouvernement complètement traditionnel, libéral. Telle est l'appellation actuelle.
Est-ce que pour préparer l'avenir, il ne va pas falloir parler des urgences? Il y a le côté écologique et là, c'est vraiment brouillon. Pour s'y retrouver, c'est un peu difficile, je pense.
Oui,
en tout cas pour moi.
C'est difficile. Oh, c'est difficile pour chacun. Je dois dire que personnellement, pour préparer l'émission, je suis le projet de loi des finances et je me trouve des fois avec des contradictions ou des choses qui sont difficiles à comprendre ou à maîtriser dans les termes ou dans les tenants et les aboutissants. Mais n'oubliez pas oublier que la presse économique est très, très abondante. Ce qui manque peu souvent, c'est le temps de lire.
Oui.
Et il est important de lire, mais pas que de l'économie, bien sûr. Mm-hmm. Toutes choses. Ce que je voulais dire à partir de là, dans toutes ces mesures, il y a quand même aussi une hypothèse. L'hypothèse, c'est que si on donne du pouvoir d'achat un peu plus, un petit peu plus, aux classes populaires, qu'on en laisse un peu plus aux entreprises, etc., donc aux acteurs économiques, ça serait qu'eux-mêmes le dépensent et que ça participe à relancer un peu l'économie. Et là, il y a une grosse interrogation. Est-ce que les Français vont faire comme au premier semestre 2019, c'est-à-dire ceux qu'ils ont gagné en plus, ils l'ont mis en épargne, ou est-ce qu'ils vont se lâcher et aller le dépenser à tout va? Ça serait la bonne chose. D'ailleurs, ils pourraient aussi puiser dans leur épargne, qui ne rapporte plus rien et qui un jour va être imposable complètement, avec des taux négatifs, eh bien, et se lâcher et passer quelques achats, ne serait-ce que par rapport à l'isolation de leur maison, par exemple, renouvellement, etc., etc. On en parlera un peu plus tard.
Ou simplement faire du tourisme pour profiter de la vie.
Bien sûr. On attend ce comportement. Il n'est pas propre aux Français, en plus. Hein.
Oui.
Ce n'est pas une caractéristique. Plein de pays du monde, on assiste, dans les pays développés, à un frein dans la consommation. On se dit, on va peut-être aller vers une crise.
Voilà.
Une crise économique, et en particulier en Europe, parce qu'on est content que le pouvoir il y a eu création d'emplois dans la première partie de l'année. C'est vrai, c'est pas énorme, mais c'est vrai. On voudrait bien évidemment que ça continue. Il y a des pays où c'est le chômage qui augmente. C'est le cas, par exemple, en Allemagne. S'il n'y a pas de dépenses, on va se mettre dans un autre cycle qui est extrêmement gênant, puisque c'est de la déflation et c'est une baisse de l'activité économique.
Est-ce
et la BCE a parlé déjà. Alors là aussi, on a le PLF qui est annoncé le 27, mais derrière la BCE, dans la même semaine, donc la semaine dernière, donc on est fin septembre, a annoncé qu'elle était prête à prendre des mesures pour essayer de reprendre, de relancer l'économie. Vraiment, ces mesures, on dirait qu'on est gravement malade. C'est des mesures de traitement de choc, comme on avait fait après la crise de 2008.
Oui. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une autre crise financière, finalement ?
Ah, j'aurais tendance à dire que le risque est fort, mais je ne peux pas m'avancer plus, personnellement, en fonction de ce que je peux analyser.
Mm-hmm.
Mais compte tenu de ce que dit la BCE, je me sens un peu en porte-à-faux. La BCE fait comme si la crise arrivait. Elle annonce déjà des mesures, elle en a déjà mis en place. Par exemple, les banques qui doivent déposer une partie des dépôts qu'il y a chez elles, le déposer auprès de la banque centrale. C'est une garantie pour la solidité de notre système bancaire. C'est très important. Il faut qu'on ait confiance dans notre monnaie. Mais figurez-vous que la Banque centrale a dit, oui, vous déposez une partie de vos dépôts que vous avez eus, vous venez les mettre chez nous, et bien là, vous allez payer 1%. Non, pas, on ne va pas vous les payer, c'est vous qui payez pour les déposer. Vous vous rendez compte? Financièrement, c'est une révolution. Les chiffres paraissent minimes, mais c'est une
vrai.
Révolution. Ensuite, la Banque centrale a annoncé qu'elle se lançait dans un rachat massif d'actifs. C'est-à-dire qu'elle va racheter aux banques, aux États, elle va racheter les reconnaissances de dette qu'ils auront, par exemple. Et voilà, la banque, elle vous prête de l'argent, vous signez une reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette, elle se vend dans le monde entier. Ce sont des produits financiers. Voilà, c'est difficile à comprendre, mais facile. Vous avez signé votre reconnaissance de dette, votre créancier le cède à un autre créancier qui lui spécule, ça va, il va bien rembourser, il ne va pas rembourser. Voyez, et bien, la Banque Centrale Européenne, qui est gardienne de l'euro, rachète des créances aux banques pour leur donner des liquidités, etc., dans le système économique. Ce qu'elle avait fait après 2008, et ce qui fait qu'elle nous avait tiré d'affaires très rapidement en Europe. Et là, elle se prépare. Donc, elle utilise les moyens en cas de crise, déjà, alors qu'on n'est pas en crise, visiblement.
Oui.
Eh bien, déjà, le fait comme si on était en crise. Ce n'est pas un joli message. Ce n'est pas une belle information.
Mm-mm.
Ils ont des bons experts, il faut être honnête.
Oui.
Eh bien, est-ce qu'on ne va pas vers une catastrophe en chantant?
Mm-hmm.
Dernier point, dont on avait parlé au mois de septembre, d'ailleurs, c'est le comportement des Français. Voit qu'on leur a donné du pouvoir d'achat, ils en ont eu un peu au début d'année, etc. Et je vous rappelle qu'ils avaient fait une une épargne en France, une augmentation de l'épargne de 17 milliards de plus en 6 mois. Ils sont bons quand même, ils sont bons quand même. Tout cet argent que la Banque centrale insuffle dans l'économie, etc., que le gouvernement veut insuffler un peu dans l'économie, est-ce que ça va partir à la caisse d'épargne ou est-ce que ça va aller dans l'hypermarché ou au marché du village ou à l'épicerie solidaire? Où c'est que ça va aller? C'est ça qui est important. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'on va rester prudent, timide?
Oui, tout ça ne donne pas des jours heureux, on va dire.
On craint que les jours se deviennent un peu durs dès l'automne. Et c'est, ça serait quelque chose qui se profilerait pour fin novembre, décembre, d'après les experts. Mm-hmm. On souhaite qu'ils se trompent.
Alors, il y a du chômage.
L'économie se trompe tout souvent, donc soyons pleins d'espoir.
Tout à fait. Il y a du chômage des fois qui se profile. Où est-ce qu'on en est, point de vue économique, là?
Eh bien, on en est dans cette situation où l'économie française ne se porte pas plus mal que les économies européennes, plutôt bien. Il y a une création d'emplois, c'est clair. La balance des échanges et du commerce extérieur est toujours dans un déséquilibre important, mais tout à fait soutenable. Les dépenses de l'État sont sous contrôle, soyons clairs. Certains grands postes sont, disons, presque à l'équilibre ou pas loin de l'équilibre, que ce soit les caisses de retraite ou les caisses d'assurance maladie, ce qui, sur le papier, est un très bon signe. Mais c'est sur le papier, parce que derrière, nous commerçons, nous sommes un petit État, une petite économie à l'échelle du monde. Que va-t-il se passer dans les relations entre la Chine et les États-Unis? Que va-t-il se passer avec le Brexit, par exemple?
Et oui. Est-ce que c'est ça aussi qui fait craindre la crise ou pas?
Certains disent que ça, dans les milieux économiques, il y a une crainte. Mais d'accord. Certains disent au contraire, ça va relancer l'économie. L'exemple même, savez-vous qu'on a embauché déjà des douaniers? L'État a déjà embauché les douaniers pour le Brexit. Bien sûr, dans tous les ports, il va falloir contrôler tout ce qui arrive d'Angleterre. Ces fermetures de frontières, on va revenir aux temps anciens. Les navires marchands vont stationner dans le port pendant une semaine, le temps qu'on les contrôle et qu'on voit s'il y a des souris ou d'autres oiseaux pervers, que sais-je. Mais ça générera du travail de certains côtés. Mais de l'autre côté, est-ce que les Anglais vont acheter tout un automate des serres d'Espagne l'hiver et au printemps des serres françaises dans les Pyrénées-Orientales? Ces tomates, est-ce qu'elles vont garder le client ou est-ce qu'elles vont le perdre? Les Américains, ils sont prêts à fournir les Anglais, il faut le savoir.
D'accord.
Ah oui.
Oui, donc eux, ils auraient intérêt justement à ce que la crise arrive. Pourquoi pas? On pourrait l'imaginer comme ça.
Oui, pourquoi pas, en termes économiques, pourquoi pas?
Oui.
Surtout qu'ils ont quelques petits problèmes, et on ne parlera pas de Boeing, parce que les effets commencent à devenir énormes dans l'économie américaine.
Oui. Pour protéger les plus vulnérables, comment ça va se passer?
Rien n'est changé de fondamental, je crois. La réduction de location logement va avoir des effets négatifs, bien sûr. Mais de l'autre côté, différentes mesures auraient un effet positif. La disparition, par exemple, de la taxe d'habitation. Les revenus sociaux qui vont être légèrement, très légèrement remontés, mais un petit peu. Et ensuite, c'est un peu aussi l'inconnu, comme d'habitude. Il n'y a pas, disons, de sacrifice du système qui a été mis en place dans la solidarité pour l'instant. Voilà, ça c'est clair. Donc, autour de nous, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des mesures qui ont été prises, par exemple par rapport aux cantines, par rapport au dédoublement des classes en primaire. Il y a des mesures très, très sociales qui ont été prises, il ne faut pas le dénier. Même si elles ne sont pas colossales, elles ont été prises, malgré tout.
Mmh. Oui. Le ministère de l'écologie, là, il n'y a pas un souci de ce côté-là?
Le souci, il est d'abord dans le PLF. Projet de loi de finances, il décortique et il fixe les budgets, le montant des dépenses prévisionnelles qui seront autorisées par tel et tel ministère pour ceci, pour cela. C'est pour ça que c'est un document qui est énorme et qui mérite réflexion. Il y a les données globales et puis après, on rentre en détail de chaque ministère. Et là, c'est sanglant. Le gouvernement annonce que l'écologie devient sa priorité.
Oui.
Et il nous faut regarder ce qu'il en est dans ses promesses. Et il répond, M. Édouard Philippe, le Premier ministre, dans l'intervention qu'il a faite à la télévision, d'ailleurs, a énoncé les 6 secteurs, les 6 grandes mesures que va annoncer le gouvernement. C'est là où se situe, pour moi, le gros problème. Ce PLF 2020 du gouvernement, dans son 80% de ce qui est décidé à l'intérieur, personnellement, ne me déconvient pas. Je suis plutôt d'accord, ça me paraît juste, faisable et soutenable. Là où il s'engage sur les mesures, sur l'écologie, là je dis, là, il y a une erreur qui a été faite. Il y a une faute pour moi, clairement. On annonce 6 mesures, mais est-ce qu'on a l'impression que c'est un discours, que ce n'est pas la réalité? Je vous donne le premier exemple. Vous savez que le gouvernement, notre pays, avait fait de la protection de biodiversité un élément très important. Tout le monde est d'accord là-dessus. La disparition des petits oiseaux, etc., donne une idée de cette biodiversité qui s'effondre, mais à très grande vitesse. Donc il faut absolument prendre des mesures. Savez-vous de combien est augmenté le budget de l'Agence nationale en faveur de la biodiversité?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Ils augmentent le budget de 41 millions d'euros. 41 millions d'euros face à l'ampleur du problème, c'est une goutte d'eau. Mm-hmm. Je rappelle que l'Agence nationale de la biodiversité, c'est la fusion de l'Office national de la biodiversité avec l'Office national de la chasse.
Les chasseurs
étant tout à fait bien placés.
Ah oui, tout à fait.
Tout à fait bien placés pour apprécier la biodiversité, pour en faire le bilan et éventuellement pour en prendre en partie, une partie en charge. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est 41 millions. Ça va servir à quoi? Mais d'abord, à faire des congrès. On fait des congrès, on fait venir des experts, des gens qui viennent, on loge, on transporte, on démonte, agences de communication, etc. Ensuite, il va y avoir peut-être la création d'un ou deux parcs nationaux. En Bourgogne, on parle d'une forêt qui serait claquée. Ce qui est annoncé n'est pas du tout, mais alors pas du tout à la hauteur de la difficulté et du drame qui se joue. Oui, et moi personnellement, pour ne rien vous cacher, ça me choque complètement.
Tout à fait.
On sait qu'il faudrait mettre le paquet, comme dans d'autres secteurs. Notre planète est en danger, la vie de notre peuple est en danger. Beaucoup de gens en sont conscients et il suffit de regarder les chiffres, de regarder des émissions sur la nature.
Mm-mm.
Le deuxième objectif qui avait été donné, c'est vers une agriculture biologique, une agriculture durable. Là aussi, qu'en penser? Dans le projet de loi de finances, n'est pas donné de chiffres ronds. Là-dessus, sur l'agriculture, il donne un taux. Le taux, ça serait d'augmenter de 25% les crédits à tout ce qui est l'agriculture durable et biologique. On se regarde, d'augmenter de 25%, c'est quand même correct.
Oui, en effet.
En effet. Sauf que l'année dernière, il n'a rien donné. Donc 25% de rien, c'est rien. Ou alors, il faut qu'il paye ce qu'il avait indiqué l'année dernière. Il faut savoir que dans l'agriculture biologique, durable, ce changement, il y a des demandes, des installations de nos agriculteurs, des changements, c'est compliqué, ça coûte cher, il y a de l'espoir, il faudrait foncer. Non, non seulement on ne fonce pas, mais on promet et on n'a pas tenu. Ce n'est pas jouable. Donc,
oui.
Où ça en est? Alors évidemment, promettre ça aux agriculteurs qui sont investis dans le durable, dans le changement, etc., on est loin des agriculteurs qu'on appelle du premier groupe, nos exploitants agricoles traditionnels dans le céréal, etc. Et là-dessus, je voudrais dire aussi quelque chose qui est passé dans la presse de la Haute-Garonne et d'Occitanie il y a quelques jours. C'est la déclaration faite par le président de la FNSEA, donc le principal syndicat agricole, le président Haute-Garonne. Et il a déclaré quelque chose d'extraordinaire. Il a déclaré que les traitements étaient en fait des médicaments pour les plantes. Il ne fallait pas s'en priver. Alors je répète parce que très simplement, j'arrive en dernier. J'ai vu tellement de gens s'exclamer que c'était scandaleux qu'un représentant agricole puisse dire des choses pareilles. C'est vrai que ça soulève des problèmes. Comment amorcer un changement radical, il le faut, on le sait, c'est très difficile dans l'agriculture. C'est là où il faut aider les exploitants actuels et ceux qui viennent aussi. C'est très compliqué de faire ça.
Tout à fait.
Il faut les aider massivement, mais c'est la priorité, l'objectif. Ce n'est pas augmenter le rendement, c'est d'abord changer la pratique. Et derrière, que l'agriculteur, sa famille, puisse avoir des données pour vivre décemment comme tout le monde. Voilà ce qui serait une vraie priorité. Là, j'ai un discours très écolo, je trouve, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne vous connaît pas comme ça.
Il y a la troisième type de mesure qui est annoncée par le gouvernement, c'est la mobilité.
Oui.
C'est le thème à la mode.
Tout à fait.
Tout le monde en parle, même dans nos différentes communautés communes du Volvertre, du Comminges, etc. On en parle un peu partout de la mobilité. Le conseil départemental, même lui, il nous fait, dans la Haute-Garonne, il nous fait des espaces de covoiturage qui sont absolument nickel. Voilà ce qu'il y a. Mais dans cette mobilité qu'on dit durable, propre, ce sont les mots, où en est-on là-dessus ? Actuellement, les primes de conversion des véhicules, si vous changez de voiture, que vous voulez une hybride, une électrique, etc., elles servent à quoi ? Quand vous voyez le prix des véhicules, la prime, en fait, c'est les constructeurs qui les récupèrent. Donc, en fait, les primes au changement sont des primes offertes aux constructeurs.
Bravo, on ne va pas citer de marque ?
Non, mais on peut les placer les toutes, citer toutes, il n'y a pas de honte. Ce sont des marques aujourd'hui mondiales, inéluctables. Hein. Quand on regarde aussi les indemnités kilométriques, ce système, ça, qui c'est qui en bénéficie ? Ben, ceux qui ont des grosses voitures, d'abord, c'est-à-dire les voitures les plus polluantes, et ceux qui roulent beaucoup, c'est eux qui en profitent vraiment. Donc ce sont les plus riches qui profitent de ces primes. On a, c'est vrai, le gouvernement avait lancé une opération qui était intéressante, le forfait mobilité durable. C'était une aide à circuler en vélo. Vous vous rendez compte, 400 euros pour un an. On ne peut même pas se payer un vélo neuf avec ça. Mais enfin, eh bien, elle est facultative pour le secteur privé. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans la fonction publique, si vous dites à votre chef de service, dorénavant, je viens en vélo, eh bien, il va vous dire, donc, je vais te mettre 400 euros de plus sur ta rémunération annuelle. Quel est l'effet ? Il y a un petit effet, c'est sûr, dans la fonction publique. Et surtout, ce qui est une honte absolue, vous voyez, le gouvernement n'a pris aucune mesure, c'est la défiscalisation du transport routier poids lourd, marin, les bateaux et les avions. Ils ne payent pas d'impôts sur le carburant, ou si c'est des taxes, elles sont toutes petites. Est-ce que vous savez que le camion chargé que vous voyez sur l'autoroute, qui arrive de très loin pour partir très loin, ce qui est déjà une aberration, eh bien, en ce qui concerne son carburant, il ne paye trois fois rien comme taxe. L'air de rien, ça coûte 1,5 milliard au budget de l'État, grosso modo. L'aviation, 3,5 milliards, grosso modo. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va augmenter un peu des taxes, des petites taxes, trois fois rien. Ça devrait rapporter 70 millions. Ah bon ? Par rapport à 4 milliards, qu'est-ce que c'est 70 millions ? Une goutte d'eau. Et ensuite, il y a les carburants pour les travaux publics qui, eux, sont exonérés pour l'agriculture. Hein ? Le fuel, le gazoil, pour les travaux, pour la pelleteuse et pour le tracteur, vous le savez, sont en fait largement défiscalisés. Et pourtant, ça pollue un max. Ça, c'était la troisième mesure. Je vous laisse la quatrième, bien sûr. Mais la quatrième, c'est de dire qu'on va favoriser l'émergence de l'énergie renouvelable, etc. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises ? Le CITE était connu. Ça faisait à peu près 1 milliard. Il est maintenu en l'état et sans plus. Et ensuite, la dernière mesure qui est annoncée, ce serait une amélioration de la gestion des déchets et le recyclage des déchets. C'est peut-être très important. Peut-être qu'il y a des progrès à faire. Mais l'annoncer comme une mesure prioritaire est, à mon sens, un petit peu, on va bourrer le rapport et le rendre crédible. Parce que tout le monde va s'interroger, qu'est-ce qu'ils entendent par améliorer la collecte des déchets ? Mais dans mon quartier, elle est bien faite, c'est vrai. La gestion du recyclable, là, oui, il y a certainement des progrès à faire, mais visiblement, quand je regarde ma communauté de communes, la vôtre aussi, auditeurs, ils sont en train de regarder ça de près, ils ont fait des progrès, ils ont des gens très techniciens qui s'en occupent, ils ont de bonnes équipes dans ce secteur-là. Le secteur du déchet, c'est des choses importantes dans les communautés de communes. Bien sûr qu'il y a des progrès à faire, mais est-ce que ça s'annonce comme un progrès national ? Je crois que c'est une erreur. Le progrès national, ce serait l'économie énergétique dans les déplacements, dans l'habitation, dans la manière de travailler, dans les importations. Ça, c'est un débat. La France est-elle en crise ? Peut-être pas, peut-être un peu demain, peut-être un peu fortement après-demain. C'est le monde qui est en crise. Il serait temps d'en prendre vraiment conscience.